Simplement, j'ai laissé venir à moi les idées qui me venaient à propos, par exemple, de l'expression « je t'aime ».
Ça fait réfléchir, l'émission philosophique de Radio Campus Amiens.
Bonjour tout le monde, vous écoutez Radio Campus Amiens 87.7 FM et nous nous retrouvons pour le 6e épisode de l'émission Ça fait réfléchir, l'émission philosophique animée par moi-même, Julien, votre serviteur. Vous pourrez retrouver cette émission sur radiocampusamiens.fr et sur le DAB+. Pour commencer, je vous propose un bref rappel à propos de l'épisode précédent, dans lequel nous avons abordé la thématique « Vivre son corps » avec quelques-uns de mes jeunes collègues de philosophie de l'Académie d'Amiens. Nous sommes notamment revenus sur le slogan « My body, my choice » en montrant en quoi il pouvait poser problème. C'était l'occasion de réfléchir sur le corps humain d'un point de vue physiologique, social, moral et politique, et sur ses libertés, ses appropriations, etc. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, vous et moi, comme lors d'un rendez-vous, galant, pouvions-nous dire autrefois, ou un date, pourrions-nous dire aujourd'hui. Au moins, je souhaite que ce soit un date plaisant, parce que certains rendez-vous de ce genre portent avec lui son lot d'incertitudes, ses peines, ses joies, mais aussi, pourquoi pas, ses questionnements. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la fête. Parler de la fête est peut-être plus particulièrement des lieux où l'on fait la fête. Qu'il s'agisse des bars, des boîtes, des festivals, où l'on peut être vu et remarqué, ou bien même chez soi, dans l'intimité coupée des regards extérieurs indiscrets. Cette émission est surtout un prétexte pour vous lire et commenter un poème que nous découvrirons tout à l'heure. La première question qu'on pourrait se poser est la suivante. Peut-on vraiment parler de la fête et réfléchir sur la fête ? En effet, faire la fête, c'est abandonner toute forme de réflexion. C'est vivre le moment, avec des amis, avec la famille, que sais-je encore, sans réflexion, c'est-à-dire sans retour sur soi. Le moment de la fête est celui du bateau qui, dans la tempête, perd ses repères, ne peut plus se diriger, abandonne malgré lui toutes les coordonnées qu'il s'était pourtant fixées dans sa navigation. Or, la limite de cette métaphore réside dans le fait que la tempête est un moment de désastre pour les navigateurs, pour nous, au bar ou chez soi. C'est un moment de joie, de relâchement complet. Un moment qui, malgré son caractère éphémère, semble en quelque sorte avoir le goût de l'éternité. Joie, relâchement, éternité. Que des caractéristiques qui, a priori, nous empêchent d'élaborer une philosophie de la fête. À la limite, on pourrait même dire « la fête, ça ne se dit pas, ça se fait ».« Je fais la fête » serait une phrase qui ne veut rien dire. Devons-nous nous taire, donc ? L'existence de la fête semble être un problème pour le langage. Peut-on vraiment parler de ce qui, en apparence, échappe à nos mots, à nos concepts et à toute parole ? Peut-on vraiment dire quelque chose d'objectif, de sensé, de juste sur ce qui, en apparence, échappe de par sa force à toute objectivité, à tout sens et à toute justesse? Dans la tradition philosophique occidentale, on appelle cela une expérience limite, que ce soit pour des enjeux moraux, politiques, sexuels, etc. La fête est une expérience limite parce qu'elle semble au-delà de tout ce que l'on peut penser, parce qu'y penser et réfléchir sur elle semble être paradoxal, voire tout à fait impossible. En vérité, ce problème, s'il s'agit vraiment d'un problème, n'en est peut-être qu'un pour le langage ordinaire, le langage et nos mots de tous les jours, et pour le langage philosophique aussi, habitué aux concepts et donc à des termes très généraux, peu disposés pour exprimer quelque chose d'aussi précis, d'aussi singulier que la fête. Prenons un petit exemple. Je rentre d'un festival avec des amis, qui par ailleurs s'est très bien passé, sans aucun problème. Et nous commençons à raconter ce moment à d'autres amis. Nous dirons donc que nous avons vu tel groupe, que nous avons rencontré telle personne, qui d'ailleurs était drôle ou étonnante, que nous avons vécu telle chose, etc., etc. Mais pourrions-nous exprimer exactement le sentiment de fête que nous avons vécu, mis à part en disant « Waouh, c'était vraiment génial !» C'est tout comme quand quelqu'un me demande pourquoi j'aime telle personne. Je peux énumérer des caractéristiques physiques, ou psychiques, ou spirituelles, mais j'échoue toujours à dire exactement pourquoi j'aime cette personne. De toute façon, comme le disait Roland Barthes, un penseur du langage du XXe siècle, on échoue toujours à parler de ce qu'on aime. Posons donc la question à nouveau frais. Face à la fête, devons-nous nous taire ? Il faudrait peut-être s'en remettre à la poésie. Car la poésie propose généralement un langage plus précis, plus singulier, plus proche des choses que les langages ordinaires et philosophiques. Même s'il est difficile de parler en poésie, parce qu'elle exige de nous de réfléchir même sur notre propre langage et sur son imprécision supposée, nous pouvons tout de même faire cet effort, sans devenir un éminent poète, de préciser notre pensée, notre perception des choses, d'exprimer les choses avec plus d'acuité et de délicatesse. Le mot « fête » est peut-être déjà trop général pour pouvoir exprimer quoi que ce soit de véritablement juste. L'approche poétique que nous allons chercher à avoir aujourd'hui part non seulement d'une expérience de la fête, débouchant sur une difficulté à en parler, mais également de la lecture très plaisante d'un poème d'un écrivain français qui s'appelle Antonin Artaud. Le poème s'appelle « Le bar » et je vous le lis immédiatement. Il y aura encore de petits bars canailles avec des viandes d'Extrême-Orient pour abriter sous Nouvel An. De petits bars avec des marins légendaires dont les pipes consumeront d'anciens poisons. Des bars légers avec les fumées qui les gonflent. De petits bars évanouis dans l'aube claire. Des bars où tourne le soleil et son train dans la laque rougie et profonde des verres. Des bars aux tables animées, aux vitres mortes où ne trempera pas le nez des facultés. Car il y a d'autres poisons pour corroder l'arbre vivant de nos fibres près d'éclore. Il a des vins violents comme des catastrophes que n'ont pas sécrété les vignes d'ici-bas. Salut, ô bar qui nous délivre des poisons, des misères et des douleurs et des alarmes en nous jetant dans la nudité de nos âmes sur des grèves où les tourments n'arrivent pas. Un silence te garde et nous protège, un froid silence où ne s'égare pas la médecine, un silence qui nous guérit dans la morphine, sans ordonnance ni décret. Nous avons là une description extrêmement détaillée du bar, lieu pourtant si trivial, si ordinaire, auquel on peut se trouver avec des amis, la famille, mais aussi en rendez-vous, en date, comme nous disions tout à l'heure. Et pourtant, la fibre poétique que l'on peut éprouver à la lecture et à l'écoute de ce poème permet de voir ce lieu de fête sous un angle absolument nouveau, comme si nous n'étions jamais allés dans un bar auparavant. Un sentiment bien étrange que la poésie est capable de nous faire vivre. Alors, ce n'est pas le seul langage capable de nous faire vivre ça, mais la poésie est particulièrement disposée pour cela. Que pouvons-nous tirer de ce poème d'Antonin Artaud ? Première chose, nous pouvons effectivement parler de la fête au travers d'une poétique du bar, voire même de la fête tout court. Artaud donne en effet une sorte de définition, mot à mettre entre guillemets bien sûr, de la fête dans l'avant-dernière strophe. Faire la fête, c'est se jeter dans la nudité de nos âmes. Faire la fête, c'est d'abord se jeter. Le mouvement est fort et il n'est pas forcément dirigé. Et d'ailleurs, je me permets de poser une petite question ouverte. Est-ce qu'on peut dire qu'on fait la fête pour quelque chose en particulier ? Nous pourrions même dire de ce mouvement qu'il est violent. Pourquoi toute fête, toute véritable fête est-elle violente ? Parce que nous pouvons envisager la fête comme étant une rupture. Tout d'abord, une rupture avec le métro, boulot, dodo du quotidien, avec le quotidien en général d'ailleurs, cette inlassable routine qui nous fait avancer vers le je ne sais quoi. On pourrait se poser la question, vers quoi ? L'argent, la reconnaissance, le bonheur, que sais-je encore ? Ensuite, la fête symbolise une rupture avec ce que la tradition philosophique a de tout temps appelé la raison. La raison, c'est la faculté en nous qui nous permet de prendre du recul, d'analyser ce qui nous entoure, de gagner ou de maintenir la sagesse qui nous caractérise en tant qu'être humain, c'est-à-dire en gros tout ce qui nous permet de vivre ensemble sans débordement. Le moment de la fête, c'est le moment du contre-coup de la raison, en tout cas de la pression qu'elle nous met quotidiennement. On décide, momentanément, dans la fête, de céder à l'excès ou à la passion. En ce sens, comme ce que le pensait l'écrivain français Georges Bataille, la fête peut être assimilée à une forme de transgression. La fête, c'est le moment où l'on transgresse les limites de la raison. Pour rester avec Georges Bataille, nous pouvons associer raison et travail. En effet, pour lui, c'est parce que les humains ont eu un jour besoin de travailler, c'est-à-dire de satisfaire tant leurs besoins que leurs désirs, qu'ils se sont mis à être raisonnables. Travailler implique de vivre avec les autres, et donc de se conduire avec toute la sagesse requise pour vivre ensemble. Vivre ensemble sous l'état de fête, ça serait un peu comme vivre ensemble sous l'état de guerre. Chacun chercherait à satisfaire tous ses désirs, à vivre dans l'excès et à exercer sa force un peu n'importe comment. C'est pour cette raison que la fête dépend aussi, d'une certaine manière, de la condition laborieuse, de la condition de travail. Aussi, la fête est éphémère parce que les désirs sont éphémères, tandis que les besoins vitaux, eux, perdurent dans le temps et le travail perdure autant qu'il y a des besoins à satisfaire. La société dans laquelle on vit dédie une place, des moments, des lieux pour la fête, parce que cela permet aux gens de se détendre, de goûter momentanément à l'excès, pour se remettre à travailler après. Encore une fois ici, je laisse une petite question ouverte. Est-ce qu'une vie exclusivement laborieuse est-elle une vie bonne, voire une vie possible ? Pour sortir de notre société, allons faire un tour chez quelques tribus amérindiennes, là où l'on pratique ce que l'on appelle le potlatch. Dans certaines sociétés dites « archaïques », avec des guillemets bien sûr, de la côte pacifique en Amérique du Nord, cette pratique du potlatch consiste en un échange de richesses accumulées par le travail de la communauté. On invite des communautés adverses pour montrer sa puissance. Plus on a de richesses, plus l'on montre que l'on a travaillé. Les communautés s'échangent des richesses faramineuses, excessives, quitte à se séparer de tout fruit de son labeur. On va même, et ça pour nous Européens ça peut paraître ahurissant, on va même jusqu'à brûler les dons des autres. La valeur symbolique de ces sociétés ne consiste pas dans leur compétence à épargner les richesses, mais dans la capacité à montrer, à démontrer sa puissance. À vrai dire, est-ce que l'on n'aurait pas la même chose dans nos sociétés européennes à nous ? Est-ce que l'on n'aurait pas aussi envie, dans les moments de fête, de tout brûler, pour peu que l'on ait quelque chose à brûler ? La fête est donc une transgression. Elle n'est pas à la limite du raisonnable, elle surpasse cette limite. Revenons à notre poème d'Antonin Artaud. Je vous relis la dernière strophe. Un silence te garde et nous protège. Un froid silence où ne s'égare pas la médecine. Un silence qui nous guérit dans la morphine, sans ordonnance ni décret. Artaud parle du bar comme un lieu de fête. Il y a une métaphore et une image qui demeurent intéressantes à analyser ici. Tout d'abord la métaphore médicale ou thérapeutique et l'image du silence. Pour ce qui est de la métaphore, nous pouvons éprouver à travers ces mots quelque chose que nous avons déjà éprouvé peut-être si nous sommes déjà allés au bar. Ce qui s'adresse de ce fait plutôt aux adultes et aux jeunes adultes. Se retrouver avec des amis ou avec de la famille au bar a quelque chose de bénéfique, tant pour l'esprit que pour le corps. L'état d'ivresse est un état de santé tout particulier, pour peu qu'il soit occasionnel, évidemment, l'on connaît bien les conséquences. Même s'il peut paraître étrange de prime abord de considérer que le bar pourrait être un lieu qui guérit, il a pourtant ce bénéfice de pouvoir nous transporter tout en restant immobile. Il faudrait imaginer le lieu du bar comme un lieu thérapeutique alternatif, comme le dit Artaud, c'est-à-dire sans ordonnance ni décret. C'est-à-dire sans l'administration contraignante d'une visite chez son médecin. Double peine de la maladie et de la prescription, c'est-à-dire à la fois une pathologie à guérir et une prescription, c'est-à-dire voilà quelque chose auquel vous devez à peu près vous soumettre. Mais tout ça, c'est pour aller mieux, évidemment. Au bar, nul papier, nulle prescription, nulle recommandation, seulement du plaisir. En tout cas, on l'espère. Mais ces vers d'Artaud, si l'on veut critiquer un petit peu le poème, impliquent que nous sommes malades. Si le bar nous guérit de certains maux. Et quels pourraient être ces maux ? Est-ce que ce seraient des maux du cœur, des maux de la société, etc., etc. Pourtant, il nous arrive d'y aller sans être malade, voire même quand nous allons très bien. Alors que penser de cela ? On peut laisser cette ébauche de critique tout à fait ouverte, mais tout ce qu'il faut savoir, et ce que l'on sait de toute façon, c'est que la médecine ne s'égare pas au bar. Pour ce qui est de l'image du silence, elle a aussi ses intérêts dans le poème. Nous pouvons relire Artaud. « Un silence te garde et nous protège. » Le silence, celui du bar, c'est le silence d'un endroit à la fois ouvert et fermé. Ouvert à tous les regards, à tous les jugements, mais fermé au bruit, au chahut de la société laborieuse, de la société du travail que l'on vient peut-être de quitter et que l'on reprendra peut-être le lendemain. Fermé aussi à la médecine et aux administrations. C'est un silence paradoxal, puisque le bar abrite parfois de la musique, des groupes en tout genre, mais il s'agit là d'un silence en tant que métaphore. Le bar est préservé du vacarme de la raison, de la sagesse à laquelle on doit se plier, parce qu'il faut vivre ensemble. Ce silence du bar, c'est un silence partagé par celles et ceux qui peuvent vivre ensemble sans être sages, en tout cas d'une certaine façon. Ce silence du bar, c'est peut-être le silence d'un baiser hasardeux, fulgurant, rappelant les heures belles de l'humanité qui, fatiguées des courtes nuits, symptômes d'une vie de travail, ne se compte plus en secondes, en minutes ou en heures, mais en éternité. La fête, pourrait-on dire finalement, c'est le moment où l'humanité ne décide ni la paix ni la guerre, où elle ne décide ni la satiété ni la faim, où elle ne décide ni la raison ni la folie. C'est le moment où l'humanité a décidé, pour un bref moment, de se donner du sens. C'est sur ces mots que se termine le 6e épisode de l'émission « Ça fait réfléchir ». Nous nous retrouverons dans 2 semaines, toujours le mardi à 10h, et je vous remercie tout le monde pour votre écoute. J'espère que ce petit date vous a plu. Et vous pouvez toujours retrouver cette émission sur le site de radiocampusamiens.fr et sur le DAB+. C'était Julien, votre serviteur, pour votre émission philosophique. Nous nous quitterons en musique. Je vous souhaite de faire la fête. Au plaisir de vous retrouver et à bientôt.